Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information au sommaire ce soir. Tester, tester plus et tester encore face à la flambée inédite des contaminations au variant Omicron. Le gouvernement annonce un renforcement de la politique de test. Cela passe par les pharmaciens qui pourront créer leur propre centre de dépistage et embaucher pour tester. L'actualité politique de ce dimanche avec un coup d'accélérateur dans la campagne et du mouvement dans les états-majors à droite. Guillaume Pelletier claque la porte de son parti Les Républicains. Il rejoint Éric Zemmour à gauche. Dimanche mouvementé également, Christiane Taubira annonce qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire.
J'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie.
À gauche, eh bien, Yannick Jadot répond, ce sera 100 mois pour la primaire populaire. Réaction à droite et précision à gauche dans un instant. Dans ce journal également, la répression implacable qui se poursuit au Kazakhstan. Et puis vos rendez-vous du 19h avec la page sport, au menu du football et du tennis avec la victoire de Gaël Monfils au tournoi d'Adélaïde. Et on s'intéressera à la mode dans le sport avec la bataille des marques dans le quotidien des sportifs de haut niveau. La météo avec de grosses précipitations sur les Pyrénées et le Sud-Ouest. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placés en vigilance rouge pour inondation. Cet autre département placé en vigilance orange au sud et au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Briam.
Je m'appelle Noé, j'ai 7 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques enterraient leurs morts. Au revoir.
Les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
C'est le fait politique du jour en forme de croche-pied ou de coup de poing dans le dos du Parti Les Républicains. Guillaume Pelletier, député du Parti Les Républicains, annonce qu'il rejoint Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains, estime que le candidat de reconquête est le seul fidèle aux valeurs du RPR. Éric Zemmour est selon lui le seul fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. Concernant Valérie Pécresse, investie par Les Républicains, Guillaume Pelletier déclare qu'il ne lui fait pas confiance et dans la foulée de cette annonce, il a été exclu de LR. Réaction de Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse. Elle estime que Pelletier, qui vient de l'extrême droite, est bien qu'il y retourne.
Guillaume Pelletier, il revient à ce qu'il était, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a commencé au Front National, puis chez Bruno Maigret, il était proche de Nicolas Bay. Il a beaucoup virevolté quand même. Je vous rappelle qu'à la récente primaire, il a soutenu Xavier Bertrand et Éric Ciotti, c'est quand même assez particulier en matière de grand écart. Il a même été démis de ses fonctions de numéro 2 par Christian Jacob, parce que justement, il se faisait le chantre de personnes de l'extrême droite comme Robert Ménard. Donc il n'y a rien de nouveau. Après, comme tous les gens d'extrême droite, il n'a qu'une envie finalement, c'est de faire perdre la droite. À chaque fois que la droite républicaine a perdu, et notamment le RPR dont il parle, c'est parce que justement le Front National était là.
Et du côté d'Éric Zemmour et de Reconquête, ce ralliement tombe à pic. Éric Zemmour présentera demain ses vœux à la presse avec, semble-t-il, Guillaume Pelletier à ses côtés, le porte-parole du parti Reconquête. Antoine Dierce se félicite. Quand on veut une droite qui fait ce qu'elle dit, eh bien on va vers Zemmour. Antoine Dierce.
Guillaume Pelletier est quelqu'un d'extrêmement intéressant, politiquement très fin, très habile, et puis surtout c'est un homme de conviction. Il montre le chemin à tous les militants, les électeurs de LR. Quand on est quelqu'un de la droite de conviction, quand on veut une droite qui fait ce qu'elle dit, eh bien on va vers Éric Zemmour. Quand on est de droite, on veut un discours très clair sur la sécurité. Vous avez entendu Valérie Pécresse nous dire « on va ressortir le Karcher de la cave ». Le Karcher, c'était une promesse de Nicolas Sarkozy qui n'avait pas été tenue. Et donc Valérie Pécresse se met exactement dans cette voie du chiracisme, vous savez, où on parle fort durant la campagne et où en fait, on ne tient pas ses promesses. Avec Éric Zemmour, les promesses seront tenues et on aura une droite de conviction au pouvoir.
Antoine Dierce et Florence Portelli auparavant sur France Info. Toutes les réactions politiques à retrouver sur franceinter.fr. Voilà pour les mouvements dans les états-majors de campagne. À gauche, la campagne, elle, ne gagne pas en clarté avec encore une journée mouvementée. Et toujours en toile de fond, la même question. Qui, à gauche, sera sur la ligne de départ pour le premier tour de la présidentielle? Christiane Taubira a annoncé ce matin qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire fin janvier. Mais pour l'écologiste Yannick Jadot, c'est toujours non. Et pour la socialiste Anne Hidalgo, c'est toujours flou. Anne Souhaitement.
J-91 avant le premier tour et toujours autant d'inconnus à gauche. Ce matin, Christiane Taubira annonçait qu'elle participerait à la primaire populaire prévue du 27 au 30 janvier, appelant les autres candidats de gauche à la suivre pour bâtir une candidature commune.
J'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie.
Réponse cinglante quelques minutes plus tard, mais sans surprise, sur France Inter du candidat écologiste Yannick Jadot.
Quand c'est non, c'est non.
Donc vous ne participerez pas à la
mais
primaire
non,
populaire ?
Non, non.
Vous avez peur ou pas ?
Mais non, je suis issu d'une primaire citoyenne, la primaire des écologistes. Moi, je m'inscris pas dans une sorte de prophétie autoréalisatrice de la défaite parce qu'il y a un secteur de la politique en France qui sait plus où il habite.
Mais alors avec qui Christiane Taubira fera-t-elle cette primaire populaire ? Pourrait-elle en être la seule candidate ? Jean-Luc Mélenchon ne cessant de le répéter, pour lui, c'est non. Les regards sont tournés vers Anne Hidalgo. Hier, la maire de Paris a pris acte de l'échec de la primaire telle qu'elle l'avait imaginée. Jouerait-elle le jeu de la primaire populaire de ses 300 000 votants ? Réponse dans la semaine. En attendant, la gauche dans l'impasse compte à ce jour 5 candidats. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Arnaud Montebourg. Et pourrait en compter comble du comble, une de plus, avec Christiane Taubira.
L'épidémie de coronavirus face à la flambée inédite des contaminations, la stratégie de dépistage du gouvernement clarifiée, plusieurs voix demandées ces derniers jours, une adaptation de la politique de dépistage en raison du nombre toujours plus élevé de malades et de cas contacts, toujours plus nombreux, entraînant un embouteillage sur les tests. Les scientifiques s'interrogeaient et se demandaient s'il fallait toujours tester autant. Réponse de Gabriel Attal, le dépistage massif va se poursuivre. Le porte-parole du gouvernement annonce notamment le déploiement de plusieurs centaines de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination et pour les pharmaciens submergés par les demandes de tests et les longues files d'attente devant leur pharmacie. Gabriel Attal leur propose de créer leur propre centre de dépistage et d'embaucher pour dépister. Véronique Julien.
Au train où vont les choses, les 10 jours à venir vont être très tendus jusqu'à atteindre le pic des contaminations. Dans ce contexte, le gouvernement fait le choix de tester encore plus massivement. On va sans doute dépasser les 10 millions de tests par semaine, mais les pharmacies ont déjà réalisé à elles seules 6 millions de tests antigéniques la semaine dernière. Elles ont dépisté à elles seules 10% de la population. Débordées, elles le disent, elles ne pourront pas aller plus loin. Gilles Bonnefond est président délégué de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
Nous, on n'en peut plus. Le dépistage aujourd'hui nous empêche de travailler correctement sur le reste de l'activité. Tout le monde est épuisé. Moi, la pharmacie, hier, ils ont fait 178 tests. Pour une pharmacie moyenne, c'est beaucoup. On a besoin de bras.
D'où la proposition du gouvernement de laisser les pharmaciens recruter d'autres professionnels de santé pour venir leur prêter main forte. Gilles Bonnefond applaudit. C'est exactement ce dont il a besoin.
Les médecins peuvent en faire. Les infirmiers peuvent en faire. Les kinés peuvent en faire. Ils sont payés comme dans les centres. Un infirmier aujourd'hui dans un centre, un dimanche, est payé 68 euros de l'heure. Ça permet de multiplier les bras sur un seul site et on a 10 jours à tenir.
Le gouvernement va élargir aussi le profil des personnes habilitées à faire des tests PCR. Les étudiants en biologie moléculaire notamment et biochimie vont y être autorisés. Un arrêté en ce sens est sorti ce week-end. Les autorités sanitaires font le choix aussi de transférer une partie de la charge sur les autotests. Les pharmacies en recevront 10 millions supplémentaires la semaine prochaine.
Véronique Julia, et on apprend ce soir que ce qui pourrait être un nouveau variant combinant Delta et Omicron a été détecté par les scientifiques à Chypre. Il aurait la signature génétique d'Omicron et les génomes de Delta, raison pour laquelle il a été surnommé Deltacron par les scientifiques de Chypre. 25 cas ont été identifiés et des échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur. La semaine qui arrive s'annonce sous tension, notamment à l'école où les syndicats d'enseignants appellent à la grève jeudi prochain 13 janvier. Et les effets du télétravail obligatoire dans les entreprises se font sentir sur l'économie, notamment dans l'hôtellerie. Il y a moins de monde dans les cafés, les restaurants et les hôtels. Et les patrons de ces établissements réclament le soutien de l'État des 30% de pertes de chiffre d'affaires au lieu de 50%, refus net de Bercy. Didier Chenet, président du groupe national des indépendants hôtellerie-restauration, estime qu'il s'agit d'un très mauvais calcul du gouvernement.
Nous sommes très durement touchés par toutes les dernières mesures qui ont été prises. L'interdiction de consommer debout, la suppression de la cérémonie des vœux, le pass vaccinal au 15 janvier qui fait qu'un certain nombre d'étrangers ne pourront pas venir, le télétravail obligatoire, l'interdiction des moments de convivialité, c'est-à-dire les pots de fin d'année, les galettes de fin des rois. Enfin, toutes ces mesures ont un impact qui est évidemment un impact très fort. À 30% de baisse de chiffre d'affaires, nous avons des masses salariales qui sont insupportables. Mais il y en a d'autres qui seront moins touchées, et c'est celles-là finalement qui vont être pénalisées. Si le gouvernement maintient ça, il va encourager, je vous le dis, il va encourager certaines entreprises, eh bien, à minorer leur activité pour atteindre ce seuil de 50%. C'est absurde.
Didier Chenet, ce soir sur France Info. À l'étranger, au Kazakhstan, la répression implacable se poursuit. Les autorités ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté près de 6000 personnes. Les émeutes qui ont secoué ce pays d'Asie centrale auraient également fait au moins 164 morts. Et à Almaty, la capitale économique où se sont déroulées les émeutes les plus violentes, 103 personnes ont été tuées selon les médias. Le pape François a exprimé ce matin sa douleur pour les victimes et appelé au dialogue. Et ce soir, les autorités Kazakh affirme que la situation est stabilisée. Régis Janté.
Des carcasses de voitures, des vitrines brisées, la façade noircie de la mairie d'Almaty, c'est le triste spectacle que décrit celui que nous appellerons Anwar. Malgré le retour de l'ordre, le jeune homme qui requiert l'anonymat ne dit sortir que pour le strict nécessaire. Les commerces rouvrent, mais se nourrir reste problématique.
On manque de pain et d'une façon générale, on ne peut acheter que des produits basiques. Ça s'améliore un peu, on peut à nouveau payer avec son téléphone. Ça nous facilite les choses, mais ce n'est pas partout. Les distributeurs de monnaie ne marchent pas partout, on ne peut toujours pas retirer d'argent.
La ville est déserte, des checkpoints ont été disposés autour et dans Almaty, tenus par l'armée ou la police. Les traces de la violence des jours passés sont partout, dans les rues comme dans les têtes.
Quand je suis allé à l'épicerie il y a deux ou trois jours, la police militaire est passée avec un gros camion. Les soldats pointaient leurs fusils sur la rue en criant sur les gens. C'était très dangereux.
Anwar voudrait maintenant être certain que le président Tokayev a bien entendu ses 18 millions de compatriotes, leur ras-le-bol des prix qui montent et de la corruption qui règne. À Tbilissi, Régis Janté, France Inter.
Et puis concernant la crise en Ukraine, les pourparlers entre Russes et Américains doivent débuter ce soir pour calmer le jeu. Mais Washington met en garde Moscou contre un risque de confrontation pour parler entre Russes et Américains. Mais l'Europe ne doit pas être exclue des discussions, indique Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. On revient quelques instants en France avec le très mauvais temps actuellement dans le sud-ouest. Nous aurons bien sûr à la fin de cette édition les prévisions complètes de Jean-Michel Golinski, mais Météo France vient de placer en vigilance rouge pour inondation les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le risque de crue est particulièrement important du côté du Gave d'Oloron qui traverse les deux départements. Et la première zone concernée ce soir est le Béarn où la pluie ne cesse de tomber depuis ce matin, comme l'explique le maire d'Oloron-Sainte-Marie, Bernard Uthury, à Bernard Thomasson de France Info.
Il pleut depuis ce matin 11h à peu près, sans discontinuer, et nous sommes effectivement en train de constater que les gaves qui descendent de nos montagnes et qui convergent vers Oloron grossissent d'une manière relativement inquiétante, même s'ils sont très encaissés à Oloron-Sainte-Marie. La situation n'est pas critique, mais suffisamment inquiétante pour que nous ayons mis en alerte tous nos services. Nous sommes en lien avec la préfecture qui n'a pas encore mis de plan de sauvegarde en route, mais nous sommes vigilants et nous sommes en train de mettre des panneaux pour indiquer des déviations, pour ne pas emprunter certaines routes qui pourraient être, si la pluie continue, frappées d'inondations.
Le maire de Oloron, certes, Marie Bernard Uthury. (Musique) 19h13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Et le sport, le journal des sports dominé par le football avec la 20e journée, la première des matchs retour.
Une journée de Ligue 1 tronquée en raison du Covid. Trois matchs ont été reportés au 26 janvier. Angers-Saint-Etienne, Lille-Lorient et Montpellier 3. Il y avait donc 7 matchs ce week-end à l'affiche dont 5 prévus aujourd'hui. 4 sont terminés et la bonne opération, c'est pour l'OGC Nice, vainqueur à Brest 3-0 alors que les Azuréens ont été réduits à 10 dès la 20e minute. Ce succès permet aux Niçois de s'installer à la deuxième place du classement à 10 points du PSG, le leader qui joue ce soir à Lyon. En attendant, l'équipe de Nice confirme qu'elle est bel et bien candidate au podium. Ce succès en terre bretonne le prouve. C'est ce que dit Walter Benitez, le gardien de but de Nice, argentin naturalisé français.
On savait, nous, que ça allait être dur ici. Brest, c'est une bonne équipe, qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait un bon résultat, surtout à la maison. Et nous, on savait que ça allait être dur. Bien sûr qu'avec l'expulsion, mais ça complique un peu le match pour nous, mais l'équipe a fait un bon travail, on a tous défendu, on a tous essayé de jouer au foot, et on est content pour tout ça.
Pour le reste, cet après-midi, pas de vainqueur ni de but entre Clermont et Reims 0-0 et entre Nantes et Monaco, entraînés désormais par le Belge Philippe Clément. Et victoire de Strasbourg à Metz 2-0. Un rappel, vendredi, Marseille est allé s'imposer à Bordeaux 1-0 et c'est sur ce même score de 1-0 que Lens hier a dominé Rennes.
Et ce soir, le choc au Groupama Stadium de Lyon.
Choc en effet, l'Olympique lyonnais reçoit le PSG, privé notamment de Messi, Neymar et Di Maria. Bonsoir Alexandre Vaud.
Bonsoir Fabrice.
En direct de Lyon, vu les absences côté parisien, c'est peut-être l'occasion pour les Lyonnais, inquiétant 13e du classement, de se relancer en ce début d'année.
Oui, car il y a urgence, hein, clairement. Fabrice, si l'OL veut accrocher une place européenne en fin de saison, ce qui est vital pour le club, il faut absolument faire un résultat. Car Lyon est en crise, une crise de résultat. Dernière victoire qui remonte au 28 novembre à Montpellier. Le nouvel entraîneur, le néerlandais Peter Bosch, arrivé l'été dernier, n'arrive pas à imposer sa patte. L'ancienne gloire du club, Juninho, nommé directeur sportif en 2019, est parti à la fin de l'année. Puis, crise financière aussi, l'OL ne touche plus les millions de la Ligue des Champions. Il y a le Covid et le retour de la jauge à 5000 personnes, ce sera le cas ce soir. Le marché des transferts s'annonce compliqué. En attendant, l'OL s'appuiera une nouvelle fois ce soir, Fabrice, sur son centre de formation, mais pas sûr que cela suffise face au PSG de Kylian Mbappé.
Merci Alexandre. Lyon PSG, coup d'envoi à 20h45.
Et c'est parti au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition.
Le match d'ouverture opposait dans le groupe A le Cameroun au Burkina Faso et victoire des Lions indomptables du Cameroun, 2-1. Le deuxième match du groupe A aura lieu ce soir à 20h. L'Éthiopie sera opposée au Cap-Vert.
Gaël Monfils en forme à une semaine de l'Open d'Australie de tennis.
Le numéro 1 français, 21e mondial, a remporté aujourd'hui le tournoi d'Adélaïde. Il a battu en finale le russe Karen Khachanov en 2-7, 6-4, 6-4. C'est son 11e titre en 33 finales disputées depuis le début de sa carrière. Il devient le 5e français le plus titré, à égalité désormais avec Guy Forget. Gaël Monfils n'avait plus gagné le moindre tournoi depuis près de 2 ans. Après 2 saisons, c'est vrai, sans consistance, durant lesquelles, pendant la pandémie, il avait perdu un petit peu ses repères, l'envie et la motivation, bien Gaël Monfils retrouve le plaisir de jouer. Ce trophée récompense une semaine exemplaire. Il n'a pas perdu un set et il affichait un niveau de jeu remarquable, même s'il considère qu'il est encore perfectible.
D'avoir su garder un bon niveau, tu vois. Constant, je sais pas, mais t'as bien joué parce que tu peux faire des trucs, mais de temps en temps tu te sens un petit peu moins bien et c'est vraiment dur à chaque fois de bien se sentir, tu vois, tout le temps, et j'ai réussi à m'adapter dans toutes les situations, donc j'étais vraiment content par rapport à ça. Toujours continuer dans l'agressivité, dans les choix que je fais, tu vois, tout, tu vois. Physiquement, je pense que je peux encore m'améliorer, je dois encore m'améliorer si je veux gagner un peu plus de matchs, quoi.
Et Rafael Nadal, de son côté, renoue aussi avec la victoire. L'Espagnol, redescendu à la 6e place mondiale, s'est adjugé le tournoi de Melbourne préparatoire à l'Open d'Australie. Il a dominé en finale l'Américain d'origine française, Maxime Cressy, 7-6-6-3. Nadal n'avait plus gagné de titre depuis le Masters 1000 de Rome en mai dernier.
On passe au biathlon. Coup double pour Quentin Fillon-Maillet.
Oui, le Français a repris la première place de la Coupe du Monde de biathlon après avoir remporté la poursuite d'Oberhof en Allemagne. Quentin Fillon-Maillet s'installe en tête du classement général de la Coupe du Monde aux dépens d'un autre Français, Émilien Jacquelin, qui lui n'a pu faire mieux que 17e aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet a signé sa 3e victoire d'affilée en poursuite et tout ça, c'est plutôt de bon augure avant les Jeux de Pékin et il le dit à Jérôme Val.
C'est sûr que c'est de loin mon meilleur début de saison et ça me donne de la confiance sur les choses que j'ai mises en place tout cet été, le travail et puis ce que je peux mettre aujourd'hui aussi. Ça me permet entre guillemets aussi d'intimider mes adversaires sur ce genre de format, voilà, ça fera pas toute la différence, mais ça peut aider. Toutes les Olympiades, c'est vrai qu'on parle souvent d'outsiders, d'athlètes qui font pas forcément partie des grands leaders ou les potentiels pour la victoire, et finalement il y a toujours des surprises, donc j'ai très envie en fait de les aborder en étant serein, mais pas trop de confiance, étant juste dans le juste milieu pour bien les aborder, et sans émotion il y aurait pas assez de envie d'y aller tous les jours.
Beaucoup moins de réussite en ski alpin, pas de podium pour les Français aujourd'hui au slalom d'Adèle Bodden. Clément Noël et Alexis Peintureau sont sortis de la piste. Noël lors de la première manche, Peintureau lors de la deuxième manche alors qu'il avait signé le 5e temps du premier tracé.
Et vous parliez de tennis, Fabrice, avec la victoire de Gaël Monfils au tournoi d'Adélaïde. Monfils qui a changé d'équipementier pour Décathlon. Et justement, on va s'intéresser maintenant à la bataille des marques dans le sport, parfois avec des maisons de haute couture. Récemment, le Paris Saint-Germain s'est associé avec Dior, devenu le tailleur officiel de l'équipe de football. Pas encore de maillot Dior sur le terrain pour le PSG. Nike reste maître sur la pelouse, mais des projets de maillot existent. En tout cas, plus généralement, les sportifs sont toujours souvent à la pointe de la mode, mais surtout, ils souhaitent être le mieux équipés. Alors des équipementiers, des marques se sont installées au fil des années dans le quotidien des sportifs de haut niveau. Et il n'y a pas que le mercato des joueurs, il y a aussi le mercato des marques, et les sportifs n'hésitent pas à changer d'équipementier pour le meilleur comme pour le pire. C'est le long format de ce soir, signé Adèle Belloumri.
En début de semaine, c'est le tennisman français Gaël Monfils qui a pris le monde du tennis à revers. Le 21e joueur mondial a signé avec Artengo la marque tennis de Decathlon.
C'est une nouvelle aventure, une nouvelle page, un nouveau chapitre de travailler avec Artengo.
Gaël Monfils sera désormais fourni en textiles, chaussures et raquettes par la marque française.
On va pas se cacher, tout le monde aime Decathlon et on a toujours cette image un peu de Decathlon, accessible mais pas forcément performant au niveau. Et ça, je me suis dit, c'est un super challenge. Ils m'ont bluffé aussi, finalement, tout ce qu'ils font, c'est accessible. Mais c'est performant.
Sa raquette, certes modifiée et customisée, coûte à la base 120 €. Elle est donc accessible au grand public. Une stratégie assumée par Artengo qui espère signer bientôt 4 joueurs du top 100. Mais surtout, pas question de monter une grosse équipe, confie Cyril Perrin, directeur de la marque.
On sait que derrière, quand on a un team de 20 ou 30 joueurs sur le circuit, bah forcément, ça coûte un petit peu d'argent et forcément, ça se retrouve dans le prix des produits. On estime que 120, 130 peut-être un jour euros, c'est quelque chose d'accessible ici pour des raquettes de ce niveau de performance-là, mais on va toujours essayer de rester hyper accessible.
En s'associant à Gaël Monfils, Decathlon espère gagner en notoriété dans le monde tout en renforçant son image auprès des Français, selon Jean-François Brocard, économiste du sport.
C'est une association d'image entre l'entreprise et l'athlète. Il peut y avoir des synergies, ça touche des publics différents et bénéficier via cet athlète de sa réputation, de sa renommée, de son image et toucher des nouveaux publics. C'est vraiment l'idée principale.
Mais parfois, quand l'association d'image ne colle plus à cause de dérives ou de comportements, il peut y avoir rupture de contrat.
L'un des exemples qui est le plus connu, c'est lorsque Tiger Woods a eu des problèmes liés à sa vie privée. Il a perdu quasiment l'ensemble de ses partenaires à part Nike, qui a décidé d'être solidaire. Et à l'inverse, vous avez Griezmann avec Huawei, suite au comportement des autorités chinoises vis-à-vis du peuple ouïghour. Et là, c'est l'athlète qui a décidé de sortir du contrat parce que l'entreprise ne renvoyait pas l'image que l'athlète était capable d'assumer.
Enfin, pour d'autres marques, le sport est juste une question d'opportunité, comme pour la marque française Célio. L'été dernier, Benoît Paire explique acheter ses propres tenues comme un joueur du dimanche. Bingo, un contrat passé en 24 heures avec le tennisman français et voilà la marque dans le monde du sport professionnel.
La bataille des marques dans le sport de haut niveau, le long format signé Adèle Belloumri.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Une semaine bousculée, sous tension, avec mardi les blouses blanches dans la rue. Les personnels des hôpitaux et des EHPAD lessivés par les vagues de Covid-19 manifestent à l'appel des syndicats. Autre journée de colère à l'école, jeudi, avec l'appel à la grève des syndicats d'enseignants depuis l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire et face à la poussée des contaminations. Les enseignants et les parents d'élèves ont l'impression de naviguer à vue sur l'agenda parlementaire. A noté mardi l'examen en première lecture au Sénat du projet de loi sur le pass vaccinal et puis à retenir également la date du samedi 15 janvier. La dose de rappel contre le Covid devient obligatoire pour conserver son pass sanitaire. La campagne pour l'élection présidentielle avec mardi à Matignon, Jean Castex, le Premier ministre, reçoit les partis politiques sur les conditions et l'organisation de la campagne présidentielle dans un contexte sanitaire tendu bien sûr et marqué par la propagation du virus Omicron. Et il sera question notamment des modalités de vote. Et puis jeudi, le Premier ministre présidera un comité interministériel à Alençon dans l'Orne sur la lutte contre les stupéfiants. À l'agenda présidentiel, à noter demain lundi le déplacement à Nice d'Emmanuel Macron pour parler sécurité avant de se rendre auprès des victimes des inondations d'octobre 2020 dans la vallée de la Roya. Emmanuel Macron veut montrer qu'il a tenu son engagement de débloquer de gros moyens pour reconstruire très vite. Marion Chantreau.
572 millions d'euros ont été débloqués par l'État sur un montant total de travaux évalué à 1 milliard au moins. Les aides d'urgence sont à la hauteur pour les maires de la Roya qui trouvent que les travaux des routes et de la ligne ferroviaire carrière avance vite. Il salue des prouesses techniques réalisées en un an. En septembre, le premier pont entièrement reconstruit a rouvert à la circulation, le pont de Perthus, qui relie Breil à Tende, plus long que l'ancien pour laisser plus de largeur à la rivière en cas de crue. Le début d'un retour à la normale pour les habitants, fatigués par les routes provisoires et les feux de chantier. 5 ouvrages d'art doivent encore être reconstruits jusqu'à Tende. L'accès de Tende par la route jusqu'au hameau touristique de Casterino ne sera pas rétabli avant l'automne 2022 et le chantier du viaduc entre Tende et le piémont italien ne sera lui pas terminé avant fin 2023. Cela engendre des pertes économiques importantes pour les entreprises de la Roya qui commercent avec le voisin italien.
Et à noter cette semaine également mercredi le début des soldes et on terminera la semaine en célébrant Molière pour le 400e anniversaire de sa naissance. Jean-Baptiste Poquelin, Molière célébré en France toute l'année sur les planches et à l'école. Voilà pour l'agenda. Pour terminer, on vous propose quelques frissons et un peu d'angoisse. Quel est ton film d'horreur préféré si vous connaissez cette phrase? Vous connaissez Scream, le 5e volet de la saga sort mercredi en salle. À chaque fois, la même trame, des meurtres commis par un tueur au masque de fantôme. On ne connaît son identité qu'à la toute fin du film. Et pour ce dernier opus, un nouveau réalisateur, Tyler Gillett, qui succède à Wes Craven, mort en 2015. Les fans espèrent que le nouveau Scream sera à la hauteur des précédents. 10 ans après Scream 4, la fine lame des sagas horrifiques reprend donc le couteau. Jason, 31 ans, responsable de paix dans une entreprise parisienne, ira le voir dès sa sortie et il dit pourquoi à Julien Morcelli.
Le quatrième, je l'avais vu première séance à 11h pour pas me faire spoiler. Là, cette fois-ci, bon, avec le travail, ça sera à 19h. Mais bon, après, j'ai prévu de le voir plein de fois. Je crois que c'est le film 2022 que je vais voir le plus de fois possible parce qu'en fait, je vais voir avec plein de copains après. Donc, je mise sur 5 fois.
Vous faites quoi pour patienter en attendant la sortie du film?
On se refait la saga, donc moi je me fais à peu près la saga une fois par an, notamment pour montrer aussi à des amis. Pendant le confinement, j'ai montré à ma meilleure amie la saga, donc elle avait jamais vu les Scream, donc je suis super content. Voir la réaction des gens quand ils voient, ils essaient d'identifier le tueur, c'est plutôt drôle.
Oui, justement, c'est vraiment à la fin du film qu'on découvre le tueur qui se cache derrière le masque fantôme, et la production, elle fait vraiment tout hein, pour garder le secret. Elle avait même fabriqué des faux scripts.
Bah ouais, parce qu'on est toujours dans la culture du spoil et donc du coup le film devait sortir en 2020 et ils ont protégé un maximum le film pour pas que ça soit affûté parce que un Scream c'est pas comme un Spider-Man, un Scream si on sait la fin bah c'est foutu quoi, on a plus envie de voir le film quoi. Et ce qui est génial en fait c'est que ils diffusent pratiquement rien, on n'a pas d'informations sur Scream parce que la production ne dévoile rien et ça je trouve ça énorme, comme à l'époque finalement, on achetait un magazine où il y avait très peu d'informations et on allait voir le film après, bah là c'est exactement pareil.
C'est pas drôle, Amber.
Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara.
La bande-annonce, en fait, elle est amusante parce qu'on croit qu'en fait, on se fait spoiler et en fait, les réalisateurs ont carrément dit « Non, mais vous inquiétez pas, il y a des scènes qui apparaissent dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film parce qu'on les a tournées exprès pour la bande-annonce. » Enfin, moi, j'ai vraiment hâte de voir et de savoir un peu qui est le tueur et ce scénario, surtout. J'espère qu'il sera inventif et puis j'espère prendre pas mal de plaisir devant, quoi.
Je suis passée par là, encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. T'es prête ?
Arrêtez!
Voilà, Scream 5, sorti en salle mercredi. Au générique de cette édition, Alexandre Chénet et Florian Dorimini en régie, qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Rachid Zourdani et Sébastien Donna. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo agitée dans un instant.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
La séquence de fortes pluies concernant l'extrême sud-ouest va perdurer jusqu'à demain soir avec des cumuls de précipitations très importants à prévoir sur tous les départements pyrénéens en vigilance orange pluie inondation et en vigilance rouge crue pour les Landes et les Pyrénées atlantiques. Il va également beaucoup neiger en moyenne altitude, d'où le risque d'avalanche très marqué. Sur le reste du pays, le gris sera pour la moitié ouest de la Bretagne à la basse Normandie en descendant vers le Limousin, la Gironde et le Roussillon avec de temps temps en temps des pluies faibles, tandis que plus à l'est, le ciel aura plus de couleurs avec des éclaircies après quelques heures de grisaille, et le soleil va pointer franchement du Jura à la Corse. Sous les éclaircies, il va geler vers 0-2 degrés en fin de nuit près de la Belgique et du Grand Est à Rhône-Alpes. En journée, il est prévu 12 à 15 degrés sur les régions méridionales, 7 à 9 du centre Val-de-Loire à la région parisienne et sur la Bretagne, et 4 à 6 du nord au nord-est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.